affettin. Bize ait işler, bize ait işler.
Il est 23h, vous êtes sur Radio Orient, le Flash.
Bonsoir à tous. Gérald Darmanin apporte son soutien aux élus qui prennent des arrêtés de couvre-feu nocturne pour les moins de 13 ans. Une déclaration à nos confrères de France 3 Occitanie. Les maires de Béziers, dans l'Hérault, de Nice, dans les Alpes-Maritimes, ainsi que d'Épennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, ont mis en place ce dispositif dans leur commune. Le ministre de l'Intérieur a lui-même instauré un couvre-feu pour les mineurs en Guadeloupe, notamment à Pointe-à-Pitre, afin de lutter contre la délinquance juvénile. Le tir de la balle qui a blessé Kenji Girac lundi à Biscarrosse dans les Landes a été provoqué volontairement par le chanteur. C'est ce qui ressort de la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Le chanteur de 27 ans aurait finalement avoué aux enquêteurs avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa femme qui menaçait de le quitter. Il était alors sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. Les managers de l'artiste regrettent que le procureur ait divulgué son intimité. La colère gronde dans les cliniques privées. La Fédération de l'hospitalisation privée réclame une augmentation de 500 millions d'euros de l'enveloppe budgétaire allouée aux hôpitaux privés pour 2024. Les établissements sont donc appelés à suspendre totalement leurs activités du 3 au 5 juin, prolongées jusqu'au 9 pour les urgences et la permanence des soins. Le mouvement est reconductible et à durée indéterminée. L'aménagement des quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 26 juillet débutera dès le lundi 17 juin. L'annonce a été faite ce jeudi par le préfet de police de Paris. Un périmètre d'interdiction de circulation motorisée soumis à dérogation sera mis en place 8 jours avant la cérémonie d'ouverture dès le 18 juillet, soit 8 jours avant la cérémonie qui devrait réunir plus de 300 000 personnes. Et puis la Chine poursuit son rêve spatial. Pékin a envoyé un nouvel équipage vers sa station spatiale Tiangong ce jeudi. La mission Shenzhou 18 a été effectuée dans le cadre d'un vaste programme qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici à 2030. Bonne soirée à tous.
Radio Orient à Toulon, 89.4 FM.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission cette semaine, nous allons revenir sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, et essayer de comprendre un petit peu, avec bien maintenant quelques mois de recul, la situation créée par les attaques du Hamas en territoire israélien du 7 octobre 2023 et jusqu'à la situation créée par l'offensive iranienne contre Israël le 14 avril. Deux événements, on va dire, disruptifs qui créent une situation d'aggravation de la situation et des conflits déjà fortement... qui marque déjà fortement la région depuis de nombreuses années. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'avoir invité Khatar Aboudia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes politologue, spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient. Et peut-être que la première question qu'on va vous poser, c'est finalement, est-ce que on n'est pas rentré dans une, après plusieurs années, un petit peu de mise en retrait de la question palestinienne et de la stabilité de cette région, est-ce qu'on est à nouveau rentré dans une phase dite chaude avec une multiplication de conflits, la reprise brutale du conflit entre Israël et la Palestine depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à l'aggravation des tensions et même des conflits entre l'Iran et Israël le 14 avril 2024?
Effectivement, depuis le 7 octobre 2023, la question palestinienne est revenue sur l'agenda international. On ne peut pas dire qu'elle a été absente, car enfin, il y avait un échec du processus de la paix conduit par les Américains depuis 1993, et il y avait toujours une situation conflictuelle, soit en Cisjordanie, soit à Gaza. Et il y avait plusieurs guerres entre Israël et les Gaza, il faut le rappeler. Et en même temps, ni les accords d'Abraham, ni d'autres choses n'ont pas stabilisé une région aussi qui connaît ces conflits multiples. Il y a la montée de certains acteurs régionaux, dont l'acteur iranien et ses projets dans la région. Et il y a d'autres questions à l'intérieur du monde arabe. Il y a aussi des États qui se sont effondrés, des États centraux qui ne sont plus là, en Irak, en Syrie, Liban, Yémen, Libye, Soudan. C'est une région qui est en passe difficile. Bien sûr, il y a quelques zones où il y a des tentatives de croissance, d'une tentative de faire mieux, surtout dans les pays arabes du Golfe, mais l'impact n'a pas été général. Et on peut dire maintenant, après le 7 octobre exactement, et avec cette tension entre Israël et l'Iran, la région revient plus ou moins à la case de départ, une région pleinement conflictuelle.
Alors, vous aviez dit, après le 7 octobre 2023, que la situation de reprise... alors, le conflit n'a jamais cessé, évidemment, mais on est bien conscient qu'après le 7 octobre 2023, on est repassé dans une phase de conflit beaucoup plus dur entre Israël et les Palestiniens. Vous disiez que la démission des grandes puissances pour imposer la paix et la stabilité était la cause de cette situation. En réalité, la puissance principale qui a renoncé à stabiliser la région, c'est d'abord les États-Unis.
Exactement. Les États-Unis, bien qu'elle soit la seule force dominante, effectivement, depuis 1991, depuis la chute de l'Union soviétique et la guerre de Koweït, lorsque l'Irak a envahi le Koweït, les États-Unis, donc, portent ou assument une responsabilité spéciale. Et depuis 1993, les États-Unis ont même pris en compte les accords d'Oslo et leur application, et ça n'a pas été le cas. Il y avait toujours cet alignement sur les thèses israéliennes. Il y a toujours cette adoption des thèses israéliennes qui a compliqué les choses. Mais pour être tout à fait objective, il y avait dans les deux environnements, dont chez les Israéliens comme chez les Palestiniens, on a l'impression que les gens ne sont pas prêts. Du côté israélien, c'est pas simplement avec l'assassinat des rabbins, avec beaucoup d'événements, la montée de l'extrême droite, et on la voit tous les jours, et elle est là dans les élections, et pour cela Netanyahu continue, et même Lapid, le chef de l'opposition, n'a jamais déclaré publiquement qu'il soutient un État palestinien. Jusqu'à maintenant, donc, il y a ces problèmes de non-reconnaissance du fait palestinien amplement, peut-être à cause de la situation géographique d'Israël, la crainte de l'équilibre démographique. Et en même temps, de la part des Palestiniens, il y avait toujours la montée de Hamas depuis les débuts des années, les milliers des années 90. Et cette montée, avec toutes les dissensions, n'a pas aidé les choses. Les Palestiniens aussi n'ont pas joué pleinement le jeu. Bien sûr, dans l'hiérarchie des responsabilités, la première responsabilité que l'acteur américain pensait pouvoir dépasser cette question à travers la normalisation avec les pays arabes, ce n'a pas été quelque chose d'utile et d'opérationnel. Et d'autre part, les Israéliens, dont leur majorité ne soutenait pas l'État palestinien, Et chez les Palestiniens, le courant de la paix et l'application des accords n'a pas été le courant majoritaire. Tout cela, donc, a apporté l'espoir de la paix.
Alors, est-ce qu'on pourrait ajouter à cela le désintérêt croissant des pays, notamment de la Ligue arabe, mais aussi des pays dits du Golfe, qui, on se rappelle, hein, dans les années dures du conflit entre l'Israël et l'Égypte, en 1973, avaient installé un embargo sur le pétrole. Aujourd'hui, on est extrêmement loin, le contexte a radicalement changé et le sentiment que ça donnait, notamment à travers les accords d'Abraham, c'est que on voulait rétablir des relations normales avec Israël pour faire du commerce, de l'économie et mettre un petit peu la question palestinienne finalement sous la poussière, sous le tapis.
Il y avait toujours des relations clandestines entre des pays arabes et Israël. Et entre certains pays arabes et Israël, et toujours il y avait beaucoup de non-dits. Mais dans la réalité, maintenant, ce conflit il a très duré. Il est le conflit le plus long de l'histoire. Ces pays arabes aussi ont été un peu choqués par la position palestinienne, par exemple, envers l'invasion irakienne du Koweït. Depuis ce moment, et la position pro-irakienne de la direction palestinienne et de la plupart des Palestiniens, cette position a affaibli le soutien des pays du Golfe, et certains pays du Golfe commençaient à prendre leur distance. D'autre part, la montée de l'Iran, les dangers à leurs yeux de cet expansionnisme iranien a déplacé la priorité donc à ces dangers iraniens et pas aux dangers israéliens. Et pour cela, cette solidarité avec les Palestiniens, même de la part des pays qui s'estimaient à un moment donné radicaux, l'Irak de Saddam Hussein, ou la Libye de Kadhafi, etc., ou la Syrie d'Assad, a été toujours verbale et non effective. Et pour cela, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, depuis l'arrivée des Américains en Irak en 2003, je peux dire une chose, que le système régional arabe s'est effondré, et je pourrais aussi préciser que beaucoup d'États arabes sont trop, comme je les ai signalés avant, se sont effondrés. D'autres États sont en pleine déconfiture économique. Et pour cela, ces pays arabes du Golfe, qui ont un autre style ou une autre hiérarchie de priorité, ont joué leur propre intérêt. C'est l'intérêt maintenant suprême. Il y a une nouvelle génération de leaders par-ci, par-là. Bien sûr, il y a des gens qui se sont impliqués dans les accords d'Abraham et ces accords de normalisation, c'est une remarque très importante, ils se maintiennent malgré tout ce qui se passe à Gaza. Bien sûr, tout le monde dénonce la guerre destructrice d'Israël, tout le monde dénonce les comportements de Benjamin Netanyahu, mais il y a parfois l'impuissance, c'est pas simplement l'impuissance, ni l'indifférence. C'est aussi parfois un rapport de force. Et l'admission de ce rapport de force, et d'autre part, ces pays arabes, à leur tête l'Égypte et la Jordanie, ont résisté jusqu'à maintenant au plus grave à la plus grave conséquence possible de cette guerre, les transferts, les déplacements des Palestiniens. Car enfin, ce qui compte, ce ne sont pas les combats de Hamas. Ce qui compte avant tout, que ces Palestiniens restent attachés à sa terre, restent à l'intérieur des territoires de Jérusalem, comme la Cisjordanie, comme Gaza. C'est le grand combat, le grand combat réel. Et tous ces pays arabes, et à leur tête les pays arabes du Golfe, comme l'Égypte et la Jordanie, sont prêts pour aider les Palestiniens pour les jours d'après. Mais il faut aussi signaler la dernière chose. Ces pays ne sont pas enthousiastes pour le style de Hamas. Et lorsque le Hamas ou les autres prennent des décisions, ils ne prennent pas les avis de ces pays. Même des pays lointains qui donnent l'impression qu'ils sont très enthousiastes. Je prends l'exemple de l'Algérie. Dans la réalité, ça reste de l'enthousiasme verbal. La réalité est que les Palestiniens luttent les selles. On a vu les Iraniens ont défendu leur intérêt suprême, c'est tout. Lorsqu'il y avait des généraux iraniens qui ont été touchés, ils ne sont pas venus pour combattre pour libérer la Jérusalem ou pour libérer la Palestine. La parole, c'est une chose, la réalité, c'est une autre chose. L'Iran, comme beaucoup de régimes arabes avant, comme la Turquie à un moment donné, comme beaucoup même de pays maintenant de ce qu'on appelle le sud global, prennent l'affaire palestinienne comme un slogan et parfois comme un prétexte et comme un alibi pour gagner des points sur la scène internationale ou sur la scène régionale. La réalité est beaucoup plus dure. Les Palestiniens morcellent. Il y a une humanité qui a été éliminée à Gaza. Il y a une mort de l'homme palestinien. Il est seul, 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 comme disait un jour Mahmoud Darwish.
Alors, dernière question de notre entretien. Comment expliquer, alors vous avez donné finalement beaucoup de réponses déjà à cette question, mais quand même, de votre point de vue, comment explique-t-on que la diplomatie traditionnelle est à ce point échouée dans sa capacité à finalement construire un État viable pour les Palestiniens et qui serait tout de même un élément de stabilisation de la région, parce que finalement, quand on aura réglé, même si on avait réglé tous les autres conflits, celui-là, il perdure.
Écoutez, oui, on a l'impression vraiment que c'est un conflit insoluble. Et malgré tous les efforts, ces deux peuples, est-ce qu'ils peuvent vivre l'un à côté de l'autre ou en symbiose l'un avec l'autre? Moi, je réponds oui. Moi, je pense que c'est possible s'il y a une volonté politique et s'il y a des réalismes politiques. Et je précise, c'est vrai que les obstacles maintenant sont énormes. La colonisation, c'est le premier obstacle avec le nombre de colons à l'intérieur de la Cisjordanie. Les versions idéologiques des deux côtés sont là pour être contre l'État palestinien. La version israélienne sur la Cisjordanie comme la Samarée et Judée chez les Juifs, comme une partie de l'imaginaire de Torah, et chez les Palestiniens que la terre de Palestine doit être musulmane de Jordan jusqu'à la Méditerranée. Ces deux versions maximalistes n'aident pas. D'autre part, ce qu'on a construit à l'intérieur de la Cisjordanie et la séparation entre Gaza et la Cisjordanie et maintenant le problème à l'intérieur de la société israélienne, le problème à l'intérieur des Palestiniens, l'incapacité des Palestiniens à faire un mouvement de libération nationale unifié, tout ça joue contre l'État palestinien. Mais s'il y a un pragmatisme politique des deux côtés et s'il y a une volonté américaine, on peut imposer cette solution. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit un véritable État dans la première phase. Ça peut être une entité progressivement qui pourrait se transformer en plein État où un jour ça s'impose, le seul État où doit vivre juifs, arabes, toutes les religions ensemble, avec tous les risques mais aussi avec tous les bienfaits.
Merci beaucoup Fatah Abou Diab pour cet éclairage. C'était vraiment une analyse particulièrement claire et précise, comme toujours. J'ai envie de dire, on a l'habitude de vous recevoir dans l'émission et à la radio, et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, Et on vous remercie bien d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous. Merci.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Changez d'horizon. Écoutez Radio Orient.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Karim Bitar. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission parce que c'est, je crois que c'est la première fois, pas sur Radio Orient, mais en tout cas dans cette émission-là. Et donc, vous êtes évidemment un spécialiste des questions liées au Proche et au Moyen-Orient. Et on avait envie de vous entendre compte tenu de la situation créée par les attaques du Hamas le 7 octobre. Et puis, on a essayé de s'intéresser à toute la période qui va jusqu'au 14 avril, où il y a eu aussi un événement, et c'est Ratar Al-Boudiab qui nous l'indiquait, qui était inédit. Une attaque directe, frontale de l'Iran sur l'État d'Israël. Et donc, on essaye de comprendre avec vous, finalement, quel est le contexte aujourd'hui, compte tenu de ces événements qui, étaient quand même relativement imprévisibles, on va dire, il y a quelques mois encore.
Merci Alexis pour votre accueil. En effet, nous assistons depuis le 7 octobre à une véritable accélération de l'histoire. Ce qui s'est passé ces derniers mois a montré la persistance de la question palestinienne, la centralité de la question palestinienne et son universalité. La persistance d'abord parce que pendant deux ou trois décennies déjà, on essayait de mettre cette question sous le tapis, de repousser au calende grec le règlement de ce conflit et de nous dire qu'on allait noyer la question palestinienne dans un méga deal économique entre Donald Trump, Jared Kushner, quelques dirigeants du Golfe, etc. Et on s'est rendu compte que cette question demeurait extrêmement sensible, qu'elle n'allait pas disparaître, que les Palestiniens étaient déterminés à poursuivre leur combat. Ensuite, la centralité de cette question palestinienne, parce qu'il est apparu très clairement que Jérusalem demeurait l'épicentre de la géopolitique internationale, que si on espérait une libéralisation, une démocratisation, une paix au Moyen-Orient, il fallait commencer par régler ce conflit. Et ce n'était pas en commençant par envahir l'Irak qu'on pourrait, par effet domino, résoudre cette question. Donc, persistance de cette question palestinienne, centralité et également universalité, parce qu'on voit que cette question porte une charge émotionnelle extrêmement forte et continue de mobiliser les opinions publiques partout dans le monde, y compris en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Dans le monde arabe, il y a un phénomène assez paradoxal où on voit que l'opinion publique demeure extrêmement sensible au sort des Palestiniens, alors qu'une grande partie des dirigeants souhaitaient quant à eux l'oublier, souhaitaient quant à eux normaliser leur relation avec Israël, fût-ce au prix de l'oubli du sort des Palestiniens. Donc cette question est devenue à nouveau centrale. La symbolique est tellement forte que les opinions publiques sont divisées partout, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même dans ce qu'on appelle le Sud global. Ce Sud global n'est pas aussi homogène qu'on le pense. En Inde, les partisans de Narendra Modi, le premier ministre ultranationaliste, ont plutôt tendance à soutenir Monsieur Netanyahou. Donc il ne faut pas penser que le Sud global est entièrement à l'image de la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Il y a aussi des courants dans le Sud qui se sont rapprochés d'Israël. Donc je pense que le clivage est essentiellement un clivage entre ceux qui ont souffert du colonialisme, qui voient dans la question palestinienne le dernier conflit colonial qui n'a pas encore été résolu, un peuple qui ne s'est pas encore émancipé, et une partie des opinions publiques européennes et américaines qui sont encore marquées par le traumatisme de l'Holocauste et qui ont tendance à se ranger de façon instinctive et souvent inconditionnelle derrière l'État d'Israël.
Alors, vous avez bien résumé les choses, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des changements de dynamique ? Historiquement, on avait un Occident plutôt massivement en soutien d'Israël et un Sud global, même si vous l'avez dit, il y a des positions partagées dans certains pays, mais globalement plutôt derrière les Palestiniens et en particulier le monde arabe. Le paradoxe, c'est que la cause palestinienne semble progresser dans sa légitimité, dans sa reconnaissance et dans son soutien dans les opinions publiques. On voit les mouvements aux États-Unis, on voit aussi en Europe hein, et dans tous les pays d'Europe. Alors que paradoxalement, du côté du monde arabe, eh bien, il y a une espèce de refroidissement, en tout cas au niveau des dirigeants. Et comme vous l'avez signalé, la cause palestinienne n'est plus une priorité d'agenda. Est-ce que finalement, ce n'est pas du côté de l'Occident que les choses vont peut-être bouger ? Par exemple, si demain, il y a un fort mouvement aux États-Unis, est-ce que le soutien inconditionnel ne deviendra pas moins puissant ?
Tout à fait, les cartes sont en train d'être rebattues à la vitesse grand V. Je suis aux États-Unis cette semaine, j'ai pu visiter les campus des universités de Columbia, de New York University, de Princeton, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable rupture générationnelle. Pour la première fois, il y a toute une génération qui est extrêmement sensible à la cause palestinienne. Il n'y a pas eu de telle mobilisation sur les campus américains depuis 1968. Et à l'intérieur du Parti démocrate américain, on a pour la première fois des partisans de la cause palestinienne qui sont devenus majoritaires par rapport aux partisans d'Israël. Donc il y a une coupure entre la base électorale du Parti démocrate et le président Biden, qui appartient à cette ancienne génération qui avait été biberonnée à l'idée que Israël était une terre sans peuple, que les Israéliens avaient fait fleurir le désert, etc. Donc cette coupure entre les opinions publiques et les dirigeants est présente non seulement dans le monde arabe, où c'est le cas depuis une trentaine d'années, mais c'est également le cas en Occident. Mais cette nouvelle génération, pour qui cette guerre aujourd'hui est un événement fondateur dans leur réveil, dans leur conscience politique qui est en train de se former, cette nouvelle génération sera au pouvoir dans 15 ou 20 ans. C'est cela qui devrait inquiéter les dirigeants israéliens. Aujourd'hui, ils peuvent toujours compter sur un soutien absolu du Congrès, du Sénat, du président américain, qui ont encore débloqué plus de 20 milliards de dollars pour aider Israël, qui viennent s'ajouter aux 120 milliards donnés par les États-Unis à Israël depuis 1948. Si vous ajustez avec l'inflation, on dépasse les 300 milliards. Ce pays qui était sous perfusion depuis sa création pourrait finir par voir se tarir ce soutien occidental, et c'est cela qui le mettrait véritablement en danger, beaucoup plus qu'une éventuelle menace que représenterait l'Iran et ses alliés. C'est l'idée qu'une opinion publique américaine pourrait se retourner contre Israël, y compris de vastes franges de la communauté juive américaine, qui deviennent extrêmement critiques des dérives à l'extrême droite et des dérives messianiques des gouvernants israéliens. C'est cela qui pourrait changer la donne au Moyen-Orient.
Alors, il y a aussi un grand acteur régional qui est omniprésent dans cette crise, hein, c'est l'Iran. Évidemment, que ce soit indirectement via les milices du Hezbollah, via le soutien aussi qui a été apporté au Hamas et à d'autres mouvements palestiniens. Mais il y a eu cet événement du 14 avril avec une attaque frontale de l'Iran en direction d'Israël, sans passer par les Houthis ou par d'autres voies. Est-ce que ça va pas aussi profiter quelque part à Israël, parce qu'on sait que dans le monde arabe, il y a quand même, notamment les pays du Golfe, il y a cette crainte d'une forme de d'hégémonie, d'impérialisme de l'Iran, qui fait que souvent, il y a une alliance objective entre Israël et les autres pays, et certains autres pays de la région.
Sur cette question aussi, les cartes ont été rebattues. Avant le 7 octobre, l'Iran était en effet considéré par les gouvernements du Golfe et par Israël comme un ennemi commun. Après le 7 octobre, l'Iran a réussi à pénétrer quelque peu les opinions publiques arabes, à défaut de se rapprocher de leurs gouvernants, en se présentant aux yeux de l'opinion publique arabe sunnite comme étant le seul pays qui résiste encore à Israël et aux États-Unis, alors que la plupart des monarchies du Golfe apparaissent comme inféodées, comme alliées aux États-Unis. Toutefois, les sensibilités n'ont pas disparu. Les Iraniens donnent parfois le sentiment de chercher à profiter ce sentiment de solidarité envers la Palestine pour avancer leur propre pion dans la région. Il faut dire que les Iraniens ont été assez habiles depuis 20 ans. Ils ont profité de toutes les erreurs américaines en Afghanistan, en Irak, pour étendre leur influence de l'Afghanistan jusqu'à la Méditerranée. C'est pour ça qu'on a parlé de ce fameux croissant chiite. Aujourd'hui, l'Iran tente d'engranger les bénéfices, mais ne souhaite pas entrer en confrontation directe avec Israël. C'est pour cela qu'il se sert de mouvements comme le Hezbollah, qui sont un peu une assurance vie, qui permettent de dissuader Israël d'attaquer directement l'Iran. Ce qui pourrait changer éventuellement la donne, c'est cet accord qui a été parrainé par les Chinois, ce rapprochement irano-saoudien. S'il devait concrétiser, se confirmer dans les prochains mois, cela pourrait conduire à mettre en sourdine cette guerre par procuration irano-saoudienne qui perdure depuis des décennies et permettre un peu d'apaiser les tensions internes en Irak, en Syrie, au Liban, dans tous les pays où on assistait à une projection de ce conflit par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Israël souhaiterait revenir au statu quo ante, c'est-à-dire revenir à une normalisation avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'y est pas hostile, du moins les cadres dirigeants de l'Arabie Saoudite, mais l'opinion publique saoudienne n'est pas sur cette longueur d'onde, et c'est pour cela que Mohamed Ben Salman exige en préalable qu'Israël fasse un pas vers la reconnaissance de l'État palestinien qui serait viable, ce que M. Netanyahou ne semble pas être prêt à faire. Donc là encore, des clivages entre les opinions publiques et les gouvernants, et une rémanence de ce jeu des puissances, des affrontements par procuration. On est en tout cas sorti de la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran qui prévalait depuis 1979, et les choses pourraient dégénérer encore. Il suffirait d'une riposte mal calibrée, d'une erreur de calcul pour que les esprits s'enflamment. À ce stade, les réponses ont été relativement mesurées. Les frappes israéliennes contre l'Iran étaient symboliques, plus que véritablement dommageables au système militaire, aux infrastructures iraniennes. Mais si le Hezbollah devait un jour accentuer un peu trop ses attaques, Israël pourrait sauter sur l'occasion pour tenter d'élargir le front, de renier les ailes de Téhéran dans toute la région. Et c'est aussi un enjeu de politique intérieure en Israël, parce que M. Netanyahou pourrait être tenté par une fuite en avant pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il sait très bien que dès que cette guerre va se terminer, sa carrière politique sera également terminée et qu'il devra rendre des comptes.
Alors justement, ça sera ma dernière question. Le paradoxe de cette séquence dont nous avons parlé, c'est qu'elle a démarré le 7 octobre et que, à mesure que le temps passe, d'autres événements, et on a parlé de l'attaque iranienne, sont venus quelque part mettre un peu de distance avec les événements qui se passent à Gaza, alors même que vous l'indiquiez, à Gaza, la guerre continue, l'armée israélienne continue ses opérations et qu'on a du mal à imaginer un retour à la normale compte tenu aussi de l'ampleur des dévastations qu'ont subi ce territoire.
L'ONU estime en effet que la bande de Gaza est devenue totalement inhabitable. Donc la question se pose aujourd'hui de savoir quel va être le sort de ces 2,2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Le projet initial des Israéliens, qui avait été exprimé par des proches du pouvoir et même par certains ministres, était de tenter de les expulser vers l'Égypte. Il y a eu une résistance de la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire plus précisément des États-Unis et de l'Égypte, qui ont empêché Israël à ce stade d'aller aussi loin. Mais il n'est pas exclu que si la bataille de Rafah devait mal tourner, devait tourner au carnage comme les batailles précédentes, les pressions s'accentuent pour que l'Égypte ouvre ses frontières et des dirigeants israéliens disent ouvertement qu'ils aimeraient voir la population de Gaza passer de 2 millions à 200 000. Donc nous sommes en présence d'un gouvernement israélien qui ne cache pas son intention de poursuivre cette stratégie d'expulsion des Palestiniens. Jusqu'à aujourd'hui, les Palestiniens résistent. L'Amérique tente de faire pression sur Israël, car c'est une année électorale également aux États-Unis que M. Biden joue aussi lui-même sa survie. Il a déjà perdu en popularité dans l'État du Michigan, qui est un État clé. Il pourrait perdre le Wisconsin, le Minnesota, où il y a aussi des communautés arabo-musulmanes qui peuvent se mobiliser, où il y a aussi une jeunesse du Parti démocrate qui n'est plus en phase avec cette politique. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes plus uniquement dans la géopolitique, mais nous sommes dans la question israélo-palestinienne est devenue un enjeu de politique intérieure, aussi bien en France, on le voit avec les élections européennes, qu'aux États-Unis avec les présidentielles, et un peu partout dans le monde. C'est pour cela que je parlais d'universalité de la question palestinienne.
Merci beaucoup, Karim Emile Bitar. C'est très clair et c'est très complémentaire aussi avec notre invité précédent. On a un éclairage, notamment bien grâce à votre visite aux États-Unis. C'était un sujet qui est en pleine actualité. Et on rappelle évidemment que vous êtes professeur et spécialiste des questions du Proche et du Moyen-Orient. Et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci Alexis, bonne soirée.
À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
عايز تاني تكلمني واخد على خاطرك قوي مني.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+, à Épinal. À Épinal.
لك نجمي وحطك فيها أهلا وفيي. أهلا وفيي بس الكلمة اللي بتحبيها إلك هي. لو في بس الكلمة اللي بتحبيها اللي كي. لكن انت برج كبير وسرك اغمق من هالبير، حيرتيني ويمكن لا 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 حق علي اطمعتي في. مسوارة عقد حجارة بب عيوني. اه يا عيوني لو حطوني بحر عيونك او شالوني لعمل لك هالنجم سوارة عقد حجاره بب عيوني. ومن دقة قلبي غني ومن دقة قلبي غني ومن دقة قلبي غني ومن دقة قلبي غني ومن دقة قلبي غنيك. عمر قلع بابا قلبي لو أعرف شو مبكيك وضمك خبيك من الغربة من عينين اللي حواليك عمر قلع باب قلبي وعينيك تغيب بعيني 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 وآه لو في لو في طال النجم وحطك فيها لو في لو في بس الكلمة اللي بتحبيها قلك لو في طال النجم حطك فيها لو في لو في بس الكلمة اللي بتحبيها قلك
لكن انت برج كبير صرت اغمى من قلبي حيرتيني ويمكن لا لا لا
حق علي اطمعطفي
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Avignon.